France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le coup d'envoi d'une grande campagne de vaccination au Royaume-Uni, premier pays européen à vacciner massivement contre le Covid-19 après la Chine et la Russie. On en parlera avec votre invité aussi à 7h50, Léa Salamé.
Oui, on lui posera aussi la question des 5000 contaminations jour. Si jamais l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe à la phase 2 du déconfinement ? Est-ce que ça remet en cause les fêtes de Noël ? Parole au chef de service en maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Eric Combes sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, et les autres titres Agnès ?
Effectivement, entre pessimisme et optimisme, les doutes du gouvernement avant la levée possible du confinement le 15 décembre. Le nucléaire, oui merci. Emmanuel Macron soutient une filière en difficulté aux grandes dames des écologistes. L'impasse des négociations sur le Brexit, Boris Johnson attendu à Bruxelles. Et puis, dur d'être un bleu, Euro, Mondial, Ligue des Nations, l'agenda très chargé de l'équipe de France de foot l'an prochain.
Encore un mot pour vous dire que l'invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, avec lequel vous pourrez dialoguer au 01 45 24 7000.
France Inter.
Messieurs les Anglais, vaccinez les premiers. Les Britanniques sont donc les premiers en Europe à lancer ce matin une grande campagne de vaccination. 400 000 personnes parmi les plus de 80 ans et le personnel soignant vont recevoir deux injections du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Pays le plus touché d'Europe avec plus de 61 000 morts, le Royaume-Uni espère ainsi gagner une bataille décisive contre le virus. Cela prendra du temps, ont prévenu les autorités, qui vont devoir également convaincre la population. Correspondance à Londres, signé Richard Place.
Le Royaume-Uni s'est glorifié d'être le premier à donner cette autorisation. Dans la foulée, les doutes sont apparus, proférés par Anthony Fauci, par exemple. L'immunologue de la Maison-Blanche a d'abord affirmé que l'agence britannique avait précipité cette approbation avant de se rétracter. Trop tard, cette affirmation, plus quelques autres, ajoutée à la défiance de l'époque, et voilà une part des Anglais pas certains de vouloir ce vaccin. Comme Fiona, maman d'une petite fille, elle n'est pas prioritaire, mais si elle pouvait recevoir les injections aujourd'hui, elle refuserait.
Je ne suis pas trop sûre. Comment ont-ils mis au point un vaccin si vite ? Je serai plus confiante quand les gens du NHS l'auront reçu. Si tout se passe bien, je veux voir si ça les aide ou au contraire, si c'est pire. Peut-être, ensuite, je me sentirai plus en confiance.
Les autorités sanitaires savaient qu'il y aurait des réfractaires sans en connaître la proportion. Alors pour convaincre, la reine Elisabeth II et son mari, le prince Philippe, sont appelés à la rescousse. Ils seront vaccinés prochainement, peut-être même en public, pour en faire la publicité. Une campagne de promotion est même envisagée avec des célébrités comme le footballeur Marcus Rashford ou le guitariste des Rolling Stones, Ron Wood. Londres, Richard Place, France Inter.
Vaccination en Grande-Bretagne, reconfinement en Californie et interrogation en France. Car après avoir fortement baissé, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes stagne autour de 10 000, bien au-delà du seuil des 5 000 fixé par Emmanuel Macron pour déconfiner à partir du 15 décembre. Un seuil qui sera très difficile à atteindre, a estimé hier soir Jérôme Salomon. Alors, déconfinement ou pas, l'exécutif Yael Gauze s'interroge.
Ne pas pêcher par excès d'optimisme, cette ligne de conduite sur les vaccins, c'est la même sur le confinement. À l'Élysée, on insiste sur la prudence méthodique du président, sous-entendu que d'autres dirigeants dans le monde n'ont pas eu. Annoncé le 24 novembre, ce déconfinement par palier était conditionné à des objectifs chiffrés. S'ils ne sont pas atteints, on y réfléchit, dit un conseiller. Faut-il être attentif à la tendance ou arc-bouté sur le seuil des 5000 ? Un Noël confiné, la décision ne serait pas seulement sanitaire, explique un proche de Olivier Véran, c'est sociétal, surtout quand le moral des Français est en berne. Alors, marche arrière toute, comme au Québec, au ministère des Transports, on n'imagine pas. Au pire, un desserrement plus tardif, la veille des vacances scolaires. Hypothèse aussi d'un couvre-feu plus strict, plus tôt. Les règles seront données jeudi soir. Ce plateau est-il la conséquence du froid, de la réouverture des magasins ? Est-il annonciateur d'une troisième vague ? L'exécutif manque de recul. Seule certitude, le Parlement devait débattre la semaine prochaine de la politique migratoire part du gouvernement. Changement d'ordre du jour, ce sera sur la politique vaccinale, priorité sanitaire donc, et espoir de sortie de crise, mais pas à court terme.
Alors en attendant de savoir ce que nous pourrons faire durant ces fêtes de fin d'année, la course aux cadeaux est bel et bien lancée avec l'accélération d'une tendance déjà observée depuis quelques années, la livraison colis relais. Le pic est en général atteint autour du 15 décembre. Reportage à Paris de Delphine Evenou.
Dans cette boutique parisienne de bandes dessinées et figurines, ça n'arrête pas.
On a quasiment toutes les minutes quelqu'un qui pousse la porte.
Paul Blaiseau, directeur de collection, et vous.
Tous les jours maintenant, on a de plus en plus de colis. On est quasiment à saturation ici. Ça monte très vite. Justement, mon collègue me disait qu'il fallait qu'il ait du renfort de la semaine prochaine, parce qu'il ne tiendra pas une semaine.
Cela fait un mois que le magasin développe cette activité. Un complément de revenus en cette année compliquée, mais pas seulement.
C'est les clients qui nous repèrent, qui après se disent « Ah bah tiens, je vais revenir pour notre cadeau de Noël, pour les cadeaux d'anniversaire. »
Et le gérant pense aussi à l'avenir.
C'est vrai que s'il y a un troisième confinement, ça nous permettra peut-être, faudra qu'on revoie encore les textes de loi, de pouvoir continuer à tourner, malgré le fait qu'on n'ait normalement pas le droit de tourner en tant que commerce de détail.
La plateforme Relais Colis, qui fait transiter 400 000 paquets par jour en ce moment, trois fois plus que d'habitude, a vu affluer ces derniers mois les demandes d'inscription des commerçants. Jean-Sébastien Léridon, le directeur général.
On a effectivement un nombre de candidatures de commerce qui a doublé, voire triplé sur certaines journées par rapport à l'année dernière, ce qui est une très bonne chose, et ce qui vient compenser à l'inverse, malheureusement, les commerces qui n'ont pas pu réouvrir. On a eu une première accélération dès le premier déconfinement. Après, on était revenu à la normale et effectivement, ça a repris fortement au deuxième. Donc c'est vraiment un effet confinement à chaque fois. Oui.
D'ici la fin de l'année, il y aura 5200 points relais colis, 500 de plus qu'en septembre.
Reportage de Delphine Evenou.
Il est 7h06, un conseil de défense ce matin sur l'écologie. Agnès, une visite pour soutenir la filière nucléaire cet après-midi.
Nouvelle déclinaison due en même temps présidentielle en cette journée internationale pour le climat. Ce matin, il sera donc question à l'Élysée de la répartition des éoliennes sur le territoire français. Et cet après-midi, Emmanuel Macron se rendra sur le site industriel du groupe Framatome du Creusot en Saône-et-Loire. Une visite perçue comme une provocation en pleine discussion avec les membres de la Convention citoyenne sur le climat. Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts.
Le président Macron est extrêmement clair sur le nucléaire. Il veut le garder, quoi qu'il en coûte pour le consommateur, quoi qu'il en coûte en matière de risque d'accident nucléaire majeur. On voit Joe Biden relancer la transition énergétique autour des énergies renouvelables, la Grande-Bretagne aussi, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, le Portugal. Et il y a une forme d'entêtement, d'enfermement idéologique. Emmanuel Macron est incapable de penser la transition écologique. Pour un président jeune, finalement, il est toujours planté, englué dans les années 70, incapable de regarder la réalité énergétique du monde où on investit massivement sur les énergies renouvelables parce qu'elles sont sans risque, parce qu'elles sont moins chères, parce qu'elles créent plus d'emplois. Et ça va devenir un handicap majeur pour la France pour les décennies à venir.
Un propos recueilli par Laurence Perron. Emmanuel Macron, qui dans un courrier ce matin au syndicat SGP Unité FO, annonce la tenue d'un Beauvau de la sécurité sur une réforme de la police réunissant représentants des forces de l'ordre, élus et citoyens. Ce Beauvau de la sécurité se tiendra au mois de janvier. Il va venir lui-même tenter de décrocher un accord. Après l'échec des négociations hier soir, Boris Johnson a annoncé qu'il viendrait à Bruxelles dans les prochains jours. Le fil n'est donc pas rompu, Angélique Boin, même si la crise est loin d'être résolue.
Après deux échanges infructueux en trois jours, une rencontre physique permettra-t-elle de renverser la vapeur? Rien n'est moins sûr car des divergences significatives persistent, écrivent les deux dirigeants dans un communiqué commun. Toujours sur les mêmes points, les règles de concurrence, la pêche et la façon de régler les différends. Signe d'apaisement, le gouvernement britannique s'est dit tout de même disposé hier à renoncer aux clauses de son projet de loi qui fragilise le processus de paix en Irlande. Une concession de dernière minute, de nature à rassurer Bruxelles certes, mais qui ne fera pas bouger les lignes. Alors qu'attendre de ce nouvel échange? Celui qui est capable de prévoir comment ces négociations vont se conclure mériterait un poste de scénariste dans l'industrie du cinéma, déclarait hier, sans rire, le porte-parole de la Commission. Ces négociations sont totalement inédites, a-t-il rappelé. C'est le premier accord commercial, en effet, de ce type que l'on négocie. Mais la saga dure depuis plus de 4 ans et les Européens fatiguent. Réunis en sommet jeudi et vendredi pour discuter notamment du Covid et de leur futur budget, leurs dirigeants n'ont sans doute aucune envie d'y consacrer leur jour et leur nuit. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Aux États-Unis, l'élection présidentielle touche à sa fin. Chaque État doit envoyer d'ici ce soir d'avoir ses résultats définitifs avant le vote des grands électeurs lundi. C'est donc la fin des recours déposés par Donald Trump, dont aucun n'a abouti. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h10, un calendrier très chargé pour les Bleus, Agnès, l'an prochain.
Avec un premier objectif, décrocher une qualification pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Si elle veut pouvoir remettre son titre en jeu dans 2 ans, la France, championne du monde, devra terminer première du groupe D devant l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Et si les Bleus font figure de favoris, Alexandre Vaux, leur emploi du temps s'annonce très compliqué.
Pas moins de 17 matchs au programme l'année prochaine si les Bleus vont en finale de l'Euro en juillet et de la Ligue des Nations en octobre, plus donc 2 fenêtres de qualification à 3 matchs pour le prochain mondial en mars et septembre, plus 1 de 2 matchs en novembre. Ajoutez à cela les trajets. Les Bleus vont voyager après avoir tiré l'adversaire le plus lointain de la zone Europe, le Kazakhstan à plus de 5000 km de Paris, quand l'Ukraine et la Finlande ne font pas partie des plus proches. L'organisation va donc jouer un rôle crucial l'année prochaine, explique le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
Si par exemple sur 3 matchs, on a 2 matchs à l'extérieur, tout dépend où ils sont placés. En termes de récupération, autant 4 jours, c'est bien, 3 jours c'est le plus court et c'est pas évident. Donc il faudra bien gérer ça aussi en termes de logistique pour faire en sorte de planifier notre programme du mieux possible.
Voilà pourquoi Didier Deschamps attend avec impatience le calendrier des qualifications du Mondial 2022 qui devrait être dévoilé ce soir.
Et ce soir en Ligue des Champions, le PSG va tenter de décrocher sa place pour les 8e de finale face aux Turcs du Başakşehir. Avis de tempête dans l'océan Indien où navigue le leader du Vendée Globe, Charlie Dalin, qui entame sa 3e semaine à la tête de la course. Ses poursuivants se livrent une belle bataille. Ce matin, c'est Thomas Ruyant qui est 2e. Yannick Bestavon s'est glissé à la 3e place devant Louis Burton et Jean Le Cam. Enfin, la Scala de Milan a lancé hier soir sa saison à la télévision. Une première dans l'histoire de l'un des plus célèbres théâtres d'opéra du monde, qui existe depuis près de 250 ans. Mais même sans public, même sans paillettes, la magie était au rendez-vous, Bruce de Galzin.
Fratelli d'Italia.
Émouvant et patriotique, l'hymne italien, entonné d'abord en solo et a cappella, puis accompagné par l'orchestre de la Scala, séparé par des plexiglas et tous masqués, sauf les instrumentistes aveugles. S'enchaîne ensuite un siècle d'opéra, de Rossini à Puccini, en passant par Verdi et son Rigoletto, interprété par Vittorio Grigolo, surnommé déjà le Pavarotti. Mmh. 25 airs d'opéra au total, dont le célèbre Carmen de Bizet, chanté par la mezzo-soprano française Marianne Crevassa. Mais la Scala, c'est aussi le ballet. Étonnant, le danseur Roberto Bolle, qui tel un robot seul sur la scène, se joue des lumières et des rayons laser. Mais à chaque fois, le même final, sans un applaudissement, sans non plus de date pour accueillir de nouveau le public. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Voilà, c'était le journal de la Soubiran, comme on dit, la Calas. Merci Agnès.